Bien, bonjour. Donc, je vais vous parler pour ma part de la recherche d'emploi et de ses caractéristiques par rapport au métier de la communication, plus particulièrement, qui sont une catégorie de métiers que je connais un petit peu. Peut-être déjà quelques éléments sur le contexte et l'environnement. Ces métiers de la communication sont très sensibles à la santé économique des entreprises. Ça veut dire que dès que le marché se tend et que l'économie se tend, les entreprises ont tendance à restreindre leur budget de communication et donc à restreindre les recrutements. Alors on le voit bien depuis 2008 avec une baisse des volumes de recrutement sur les métiers de la communication, qui fait que c'est donc un marché assez tendu depuis quelques années, et ça se maintient hein, jusqu'à présent. C'est aussi des métiers qui sont en constante évolution, et notamment très récemment, hein, avec toutes les nouvelles technologies et les nouveaux modes de communication qui se développent, ça impacte forcément aussi la politique de communication des entreprises, donc ça rebondit derrière sur les métiers qui changent fondamentalement. On le voit avec le community management par exemple, qui se développe beaucoup. Et puis, peut-être troisième caractéristique principale, c'est un marché hein, d'offres d'emploi, les offres d'emploi sur de la communication, qui est naturellement assez restreint. Hein. C'est pas, si on peut comparer avec, par exemple, les recrutements sur le marché des commerciaux, c'est fondamentalement très différent. Sur les commerciaux, il y a toujours beaucoup de volume. Les métiers de la communication, il y a naturellement moins de volume. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire sur le contexte. Les conséquences que ça peut avoir pour vous, pour les jeunes qui cherchent donc à s'insérer sur ce marché-là, c'est donc un marché avec une très forte concurrence sur chaque offre d'emploi. Ça veut dire qu'il faut évidemment avoir un profil qui est le plus affûté possible hein, par rapport aux attentes des entreprises. On va voir après ce que ça veut dire hein, ou comment ça peut se traduire. Une tension sur les prix. Quand il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, forcément, on a une tension sur les prix. Il y a des salaires qui sont stagnants et qui ont pas mal baissé en 2008. Concrètement, on le voit de temps en temps, hein, il y a des entreprises qui essayent d'acheter un bac plus 5 au prix d'un bac plus 3, hein, ça se traduit comme ça par exemple. Donc des salaires qui sont tendus, une forte exigence de la part des entreprises parce qu'elles ont le choix hein, entre beaucoup de candidats, donc elles peuvent choisir et donc elles vont avoir tendance à être exigeantes sur les profils. Et puis ce que j'appelle la cannibalisation des postes débutants par des expérimentés, on voit aujourd'hui sur des postes débutants se positionner des jeunes qui ont 2 à 3 ans d'expérience et qui n'ont pas suffisamment de débouchés sur ce créneau-là. Et qui donc se repositionnent et viennent se positionner et se confronter avec vous sur des postes débutants. Donc ça, il faut le savoir. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de réussite, comme facteur de réussite? Plusieurs choses. D'abord, une bonne formation de base, que ce soit de niveau licence ou master. Les deux diplômes et les deux niveaux ont leur place sur le marché, mais une bonne formation de base, ça c'est important. Des stages à la fois riches en contenu, qui vous permettent de développer des compétences que vous allez identifier et que vous allez pouvoir revendre, et variés également hein, en termes de secteur d'activité, en termes de type d'expérience. Hein, dans les métiers de la communication, il y a des choses très différentes qu'on peut faire. Des qualités personnelles qui sont en phase avec les attentes liées à ces métiers. Il est clair qu'il faut des qualités rédactionnelles, de bonnes qualités rédactionnelles, plutôt de la créativité et une espèce d'ouverture d'esprit, c'est important aussi. Si vous êtes plutôt positionné sur les métiers de l'événementiel, ben, il faut être polyvalent, il faut avoir le goût du terrain, du concret, etc. Donc il vaut mieux avoir les qualités, un minimum les qualités qui correspondent aux attentes des entreprises par rapport à ces métiers. Une très forte motivation parce que ça vous donne de la puissance de conviction. Ça, c'est très en recrutement, on le sent très, très fort hein, avec certains candidats quand ils sont très motivés. C'est très difficile hein, de se protéger de la contagion hein, et de garder la tête froide pour analyser les compétences, les caractéristiques du candidat. Hein. Donc, il faut, côté candidat, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. La motivation est une puissance, vous donne de la puissance, de l'énergie dans la communication que vous avez, notamment en entretien. Évidemment, hyper communiquer sur sa recherche, c'est-à-dire qu'il va falloir le dire, le répéter partout autour de vous, ce que vous cherchez, pourquoi vous le cherchez, et il faut le répéter jusqu'à ce que ça fasse remonter les informations utiles pour vous, et jusqu'à ce qu'on pense, hein, de manière à ce que les gens pensent à vous dire qu'un poste se libère à tel endroit, etc. Et puis se constituer un réseau relationnel, et ça c'est surtout pas à commencer au moment de la sortie, ça commence au début des études, ça commence par des gens que vous rencontrez dans vos stages, dans vos vies, dans vos expériences associatives. Et qu'il faut garder, avec lesquels il faut garder des contacts que vous réutiliserez plus tard, notamment au moment de la recherche d'emploi. Ne pas limiter son champ d'action aux offres d'emploi qui sont sur le marché apparent, c'est-à-dire les offres d'emploi qui sont publiées sur les sites internet ou dans la presse. Il y a tout ce qu'on appelle le marché caché, hein, qui représente, alors les chiffres sont très variables, hein, mais on va dire à peu près 70% de ce qui, des recrutements ne sortent pas en annonce et sont pourvus par le bouche à oreille, par les relations, par des candidatures spontanées qui sont arrivées dans l'entreprise, etc. Donc c'est très important que vous ne vous limitiez pas aux offres d'emploi qui sont apparente sur le marché, parce qu'il y a tout le reste se passe ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs. Et puis, peut-être dernier petit facteur de réussite important aussi, ne pas être seul pendant la phase de recherche, c'est-à-dire être appuyé par des gens auprès de qui vous pouvez en parler, partager vos doutes dans les moments où c'est un peu plus difficile. Alors, des conseils peut-être qui se déclinent derrière tout ça. Être très professionnel dans votre recherche d'emploi. Hein. Vous avez des gens qui sont très exigeants en face du côté des entreprises, donc il faut être très pro dans votre recherche. Il faut donc vous attaquer aux offres d'emploi qui sortent en presse, mais il faut aussi vous attaquer aux candidatures spontanées, donc vous positionner sur des entreprises en direct, aller proposer vos services auprès des entreprises de façon spontanée, et puis travailler vos réseaux relationnels, c'est-à-dire essayer de faire remonter des informations pour savoir qui recrute. Avoir des arguments qui sont parfaitement clairs en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de qualité. Être capable, alors la motivation, il faut qu'elle soit là, mais il faut aussi être capable d'en parler, et il faut être capable d'en parler de plusieurs façons différentes au cours de l'entretien. Donc ça se prépare. Il faut être un bon communicant là-dessus. Hein. A priori, c'est votre métier. Donc, considérer que cette recherche va vous prendre du temps. Hein. Moi, je parle toujours d'un mi-temps à peu près hein, à consacrer à une recherche d'emploi pour que ça donne des résultats et que ça se fasse de façon dynamique et intensive. Suivre vos candidatures par téléphone, c'est très important. Il peut se passer des choses très intéressantes par le téléphone. Alors, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas possible, hein, quand on postule en ligne, quand on répond par mail avec des adresses qui sont contact, at, je ne sais pas quoi. C'est évidemment pas possible dans ces cas-là. Mais il y a des cas où vous allez savoir, vous allez pouvoir comprendre ou savoir où atterrit votre candidature. Et dans ce cas-là, il faut passer un coup de fil. Et le pitch, il est simple. Hein, c'est est-ce que vous avez reçu ma candidature? Où est-ce que vous en êtes dans le processus de recrutement? Est-ce que vous souhaitez qu'on en profite pour prendre le rendez-vous, fixer l'entretien maintenant, et reformuler votre motivation et remercier. Il ne s'agit surtout pas de mettre la pression, juste faire ça. Hein, et ça permet à l'entreprise, ça oblige l'entreprise à ressortir votre dossier, à réafficher votre fichier, etc. Et il peut se passer des choses intéressantes rien qu'avec ça. Apprendre dans tous les cas, parler de votre profil, enfin de votre recherche, de votre projet, de votre profil, de vous-même, de façon positive. Hein. Surtout pas en tant que demandeur, mais en tant que proposition. Vous proposez votre profil, vous proposez vos services, vous proposez vos compétences, et puis après, enfin, s'ils prennent ou ils ne prennent pas, mais ça doit se faire dans le sens de la proposition et non pas de la demande. Hein. C'est très différent. Si possible, vous impliquer dans des clubs professionnels, hein, il en existe même à Dijon, enfin il en existe partout, des clubs professionnels qui vont vous permettre de faire du bénévolat auprès de professionnels et donc d'être en relation avec eux avant même d'avoir à les solliciter pour éventuellement une recherche d'emploi. Hein, donc c'est intéressant que vous essayiez pendant vos études de vous impliquer dans des activités auprès de ces clubs. Être visible évidemment sur les hubs de Viadeo, notamment ceux qui vous concernent, hein, qui concernent la communication. C'est très important d'être actif sur ces hubs et d'être actif avant d'en arriver à avoir besoin du hub pour aller chercher un emploi. Hein, donc d'apporter des contributions sur certains hubs, de vous rendre visible et puis de vous créer des relations qu'à un moment donné vous activerez pour éventuellement une recherche d'emploi. Après la formation, continuez de lire des revues professionnelles parce qu'on perd très vite la notion, la connaissance d'un secteur quand on arrête ses études. Hein. Donc restez abonné, offrez-vous, payez-vous un abonnement à une revue professionnelle pour garder des informations à jour sur ce qui se passe dans votre secteur. Vous faire aider pour votre premier entretien avec vos professeurs, avec des professionnels, pour préparer l'entretien, pour débriefer un entretien. Une fois que vous avez fait ça une fois, vous avez une bonne préparation et vous avez fait un bon débrief sur un premier entretien, vous êtes beaucoup plus efficace sur les suivants. Et puis toujours avoir un plan B. Il faut toujours envisager que si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais d'autre, hein, et combien de temps je me donne pour que ça marche, hein. Donc qu'est-ce que je fais dans 6 mois, qu'est-ce que je fais dans 1 an, il faut toujours avoir une petite idée là-dessus quand même. Pour finir, peut-être, parce que souvent vous n'osez pas le demander, donc je vais le faire. Si vous voulez vous payer un coach, ça peut être très utile. Alors, pour plein de choses, notamment pour préparer un entretien, pour débriefer un entretien, pour valider une stratégie de recherche d'emploi, il n'y a pas besoin de beaucoup de séances pour une préparation d'entretien. Une séance d'1 heure suffit, hein, et pour valider une stratégie de recherche d'emploi, 1, 2 ou 3 séances, ça dépend des personnes, sont suffisantes. Ce que ça coûte à la ville, auprès de particuliers, un coach, ça coûte entre, on va dire, 60 et 100 euros de l'heure. Et il ne faut pas hésiter à demander des réductions quand on est étudiant en recherche d'emploi. Hein, il y a beaucoup de coachs qui font des réductions. Voilà, bon, je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le contenu de mon intervention. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prendre maintenant quelques questions et puis répondre à vos questions. Alors, j'en ai une première peut-être. Faut-il entrer directement en contact avec les professionnels en poste pour postuler dans une entreprise? Oui, évidemment, ça fait même partie de ce qu'on fait quand on fait une recherche par candidature spontanée. On identifie des personnes à qui on va écrire. Alors, en recherche spontanée, on peut écrire soit au service RH, bon, et là, l'identification, elle est vite faite, soit, et moi, je conseille toujours de doubler, d'ajouter aussi, d'écrire au directeur communication ou au directeur ou au général tout court, parce que parfois c'est à lui qui est rattaché le service communication. Donc en tout cas, d'écrire au N plus 1. Parce que le service RH, ça dépend des entreprises, mais dans les grosses entreprises, ils sont noyés sous les candidatures spontanées. Donc ils vont, au mieux, ils vous mettent dans un fichier qui est après dispatché auprès des opérationnels internes. Mais les opérationnels, le N plus 1, votre futur supérieur hiérarchique, lui, il est sur le terrain, il a des gens qui sont absents, il a des projets qui arrivent et sur lesquels il peut mettre personne, et lui, il est au cœur du besoin. Donc c'est à lui qu'il faut écrire. Donc c'est très important quand vous faites une candidature spontanée d'identifier le directeur communication ou d'identifier le DG et d'écrire à cette personne. Alors il faut faire des recherches sur le web, il faut aller suivre un peu leur actualité, il faut trouver le moyen de, mais c'est assez facile quand même, de trouver l'adresse mail, et puis vous faites une candidature auprès directement de ces opérationnels. Et donc de ces personnes qui sont à même de prendre des décisions. Hein. Peut-être une autre question. Envoi de candidature spontanée par mail, faut-il envoyer un CV et une lettre de motivation ou seulement le CV et quelques lignes accompagnantes? A priori, il faut plutôt envoyer le CV et la lettre. Hein. Et puis vous mettez tout ça dans votre mail et vous faites 3 lignes d'accompagnement en disant veuillez trouver 6 juin ma candidature spontanée pour un poste, etc., dans la communication, et vous attachez vos 2 pièces jointes. Il y a des cas, mais ça vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, donc je vous le déconseille quand même, il y a des cas où seulement le CV va être utile. Il y a des entreprises qui fonctionnent un peu à l'américaine et la lettre de candidature ne s'en servent pas. Bon, ils vont lire uniquement le CV, ils vont prendre une décision sur le CV. Mais comme vous ne pouvez pas savoir à l'avance à qui vous écrivez, je vous conseille quand même de mettre plutôt les deux. Et donc, dans ce cas, de faire 2 ou 3 lignes très rapides dans le mail accompagnateur. Peut-être encore une autre question. Est-ce une bonne démarche d'envoyer des CV aux grandes entreprises? Alors là, j'ai une chose quand même, peut-être une mise en garde à vous faire. Les entreprises, plus elles sont grosses, plus elles sont visibles, plus elles ont une forte image, plus elles sont noyées sous les candidatures spontanées. Donc, moins vous avez de chance que votre candidature émerge au milieu de tout ça. Donc il est beaucoup plus judicieux de canaliser vos candidatures spontanées sur des entreprises de petite taille ou de taille moyenne, qui ont des noms qui ne sont pas forcément très parlants, qui ne sont pas très visibles du marché et qui pourtant, elles, recrutent et sont même très contentes d'avoir des candidatures spontanées parce qu'elles n'en reçoivent pas souvent. Et là, la candidature spontanée, le jour où elle arrive, tout le monde est content de la voir. Donc, il y a des accueils très différents qui peuvent être faits à la candidature spontanée en fonction de la taille de l'entreprise. Et il faut en tenir compte, vous, évidemment, dans votre stratégie de recherche d'emploi. Peut-être que je peux encore en prendre une rapidement. Quels bassins de recrutement sont les plus porteurs dans la communication? Ben évidemment Paris, Lyon aussi. Bon, il y a des recrutements un petit peu partout, mais le gros des volumes est à Paris principalement. Ça, je le vois très souvent dans les étudiants qui sont en recherche et qui trouvent très majoritairement à Paris. Voilà, donc il faut être prêt à travailler à Paris. Voilà, je crois que je vous remercie de votre attention. Je vais vous demander d'attendre 1 ou 2 minutes le temps qu'on change d'intervenant et puis je vous souhaite une bonne réussite dans vos recherches.